Pour l'instant, il est 13h sur France Inter. Et Anaïs Feuga nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour à tous. La crise sanitaire n'est pas derrière nous. Nous allons vivre pendant encore plusieurs mois avec le virus. Le président de la République met en garde les vacanciers contre le Covid. Conseil de défense sanitaire ce matin. Un scénario d'urgence est devant nous aux Antilles, dit encore Emmanuel Macron. Nous serons en Martinique avec notre envoyé spécial. Inquiétude aussi pour la Polynésie. Le virus avait quasiment disparu en juillet. Il revient en force à cause du variant Delta. Et pendant ce temps, les pharmacies pris d'assaut pour obtenir un test. Depuis que le pass sanitaire est obligatoire, nous serons à Poitiers. Des talibans qui paradent dans les rues de Kunduz pendant que des civils apeurés fuient la ville. L'emprise des extrémistes s'étend en Afghanistan. Ça a été très dur de quitter Barcelone, mais j'ai beaucoup d'enthousiasme. Communication bien rodée du PSG ce matin. Présentation à la presse de Lionel Messi. Il rêve de gagner la Ligue des Champions avec les Parisiens. Mais l'image du jour, c'est cette impressionnante foule qui s'arrache depuis la première heure le maillot numéro 30 dans les boutiques parisiennes. Et puis, enfin, un rayon de soleil sur les bords du lac du Bourget. Nous y serons en fin de journal.
France Inter.
Commerce fermé en Martinique, on va y venir. Plan blanc déclenché dans 4 régions. Nombre de malades en soins critiques qui continuent d'augmenter dans le sud de la France. La situation sanitaire inquiète aux Antilles, mais aussi en métropole, à tel point que le président de la République a décidé de convoquer un conseil de défense sanitaire non prévu en plein mois d'août. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Prise de parole à 11h tout à l'heure d'Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon pour remettre un coup de pression en plein cœur de l'été.
Il ne faudrait pas que cet été nous fasse croire que l'épidémie est terminée, insiste-t-on ce midi à l'Élysée, dans la foulée en effet de cette nouvelle alerte lancée par le président de la République.
La crise sanitaire n'est pas derrière nous, très clairement. Et j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, nous allons vivre pour encore plusieurs mois, nous le savons, avec ce virus.
Problème, la vaccination ralentit ces derniers jours, selon Emmanuel Macron, qui s'est fixé l'objectif de 50 millions de primo-injections fin août. On en est pour l'instant à un peu plus de 45 millions. Alors le chef de l'État n'hésite pas à prendre en contre-exemple la Guadeloupe, la Martinique et leurs habitants, 3 fois moins vaccinés qu'en métropole.
S'il fallait faire la démonstration que la vaccination est le moyen le plus efficace de répondre à ce variant Delta, malheureusement, nos Antilles en délivrent, si je puis dire, une démonstration cruelle.
La stratégie de l'électrochoc face aux contestations qui se poursuivent. Le président en profite d'ailleurs pour répondre aux antipasses, aux antivax et à ceux qui les soutiennent.
Loin de ce qu'affirment certains et qui font commerce de cette pandémie pour gagner des parts de marché politique, jamais dans notre histoire, une crise d'une telle ampleur n'a été combattu de manière aussi démocratique.
Après ces vidéos de la semaine dernière sur les réseaux sociaux, on en a parlé, Emmanuel Macron, même depuis Brégançon, reste mobilisé et il le met en scène avec sans doute en tête le souvenir de l'été dernier quand l'exécutif s'était vu reprocher sa passivité face à la reprise épidémique.
Merci Simon Le Baron. Vacciner, seule solution pour sortir de cette situation, on l'a bien compris, hein, c'est ce que martèle le président de la République. On va y arriver, selon le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer.
Il faut atteindre une couverture vaccinale, comme on dit, très élevée, 90%. Je pense qu'on peut y arriver au mois de septembre. Ça représente pour les plus de 12 ans à peu près 52-53 millions de personnes. On devrait pouvoir y arriver en septembre. Je pense que les adolescents se vaccinent vite et bien. C'est surtout, il est important de rappeler à ceux qui ne sont pas encore vaccinés qu'il faut le faire, que c'est leur intérêt personnel. Les relativement jeunes ou jeunes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin du vaccin parce qu'ils ne sont pas un risque, malheureusement, se trompent. Parce que même relativement jeune, même si on n'a pas de maladie ou de facteurs de risque, on peut, on l'observe tous les jours et les réanimateurs nous le rappellent, faire des formes graves.
Alain Fischer ce matin sur France Info, favorable aussi à la troisième dose de vaccin dès la rentrée pour les personnes les plus fragiles, principalement les plus de 80 ans. Dans la foulée du Conseil de défense sanitaire, le Conseil des ministres également réuni avec comme unique point à l'ordre du jour la déclaration de l'urgence sanitaire en Polynésie, rétablissement d'un couvre-feu à partir de ce soir, voire autres restrictions à venir. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Car là aussi, la situation n'est pas très encourageante.
Et non, l'évolution de la situation est même décrite comme explosive. Plus de 1000 nouveaux cas avaient été recensés la semaine dernière. Lundi, c'est plus de 1000 nouveaux cas qui ont été enregistrés en une seule journée, courbe exponentielle donc. Et les choses vont très vite. Le 16 juillet, le Covid avait quasiment disparu de Polynésie, avec une incidence inférieure à 10. Le 23, l'incidence était à 16. Le 30 juillet, elle était à 400. Aujourd'hui, elle atteint 1400 cas pour 100 000 habitants. Résultat, des hôpitaux qui commencent à saturer, comme le décrit Dominique Saurin. C'est le haut commissaire de la République en Polynésie française.
Nous n'avions jamais atteint de tels chiffres en nombre d'hospitalisations. L'année dernière, nous avions eu un pic de contamination déjà. En octobre-novembre, nous étions montés un peu plus de 100 personnes hospitalisées. Aujourd'hui, nous sommes à 185. L'année dernière, nous avions un peu moins 29 personnes en réanimation. Aujourd'hui, nous sommes à 26 et nous sommes à nos limites, d'où les mesures qui ont été annoncées.
La situation est grave et va encore se dégrader, explique le haut-commissaire. Un confinement n'est pas exclu, dit-il, si nécessaire dans les prochains jours. Pour la seule journée d'avant-hier, 10 décès Covid ont été enregistrés sur une population qui compte en tout 280 000 habitants. Une population assez réticente à la vaccination, avec seulement 35% de vaccinés première dose et seulement 28% de schéma vaccinal complet. Des renforts de soignants ont été demandés à la métropole, mais aussi à la Nouvelle-Calédonie.
Des renforts qui sont arrivés, eux, cette nuit aux Antilles. Près de 250 soignants pour prêter main forte aux hôpitaux. Le variant Delta très contagieux s'abat sur une population peu vaccinée. Il faudrait une centaine de lits de réanimation en plus en Guadeloupe, selon le ministre des Outre-mer. La courbe des contaminations est tellement forte qu'il va falloir durcir le confinement, dit Sébastien Lecornu. Confinement déjà en place en Martinique, où le jour se lève. Rideaux baissés, rues vidées, seuls les commerces prioritaires restent ouverts, les déplacements limités à 1 km. L'envoyé spécial de France Inter en Martinique, Faustine Calmel, a assisté à la mise en place de ce confinement 19h, heure locale hier soir.
Entre le marché couvert et la préfecture, dans ces rues qui se coupent à angle droit, les portes sont closes. Une heure avant le début des nouvelles mesures de confinement, tous les rideaux de fer sont baissés, sauf dans ce bazar.
Ouais.
Radio à fond pour suivre les nouvelles de l'épidémie, Idriss s'apprête à fermer.
3 semaines de confinement, alors c'est dur pour nous, alors... Oui, mais c'est pour notre santé tout ça.
L'hôpital est saturé, le taux d'incidence grimpe à 1200 cas pour 100 000 habitants. Un peu plus loin, Attier ferme sa boutique de vêtements.
C'est dur pour nous. On attend cette période d'une année à l'autre. Et l'année dernière, c'était la même chose.
Avec des pertes financières importantes, confie sa femme.
Ah oui, on a perdu beaucoup d'argent. Et puis cette année, voilà, on est content que la marchandise est là. Et maintenant, on dit qu'il y a ce confinement. Mais il faut nous comprendre aussi. Il faut qu'on paye notre marchandise, on paye les frais, on paye tout ça de charges.
On n'a pas besoin d'aide du gouvernement, c'est de nous laisser travailler.
Attier espère obtenir une dérogation pour rouvrir, car il vend des uniformes pour les écoliers qui doivent reprendre la classe dans 3 semaines.
Faustine Calmel à Fort-de-France. Dernier point abordé lors de ce conseil de défense, la mise en place contestée du pass sanitaire. Si on n'avait pas le pass et la vaccination, probablement on aurait fermé certains lieux, explique le porte-parole du gouvernement. Mais pour l'obtenir, il faut être vacciné ou avoir un test négatif au Covid. Conséquence, les laboratoires et les pharmacies prises d'assaut, comme ici à Poitiers. Reportage France Bleu Poitou pour France Inter, Jules Brelaz.
Une bonne partie des patients viennent à cette pharmacie du marché Notre-Dame.
Pour un test antigénique.
Et à chaque fois, c'est le même refrain.
Non, là, on est complet jusqu'à la semaine prochaine, en fait.
Ok. Du jamais vu pour Jacques, le pharmacien.
Depuis hier matin, on ne voit plus le jour, on est complètement sous l'eau, on est débordé. Le planning s'est rempli, nous, en une matinée, on a 10 jours de rendez-vous. Plein, on a du mal à se fournir en test, en autotest, et comme c'est les vacances et qu'il y a du personnel en congé, c'est très compliqué à gérer.
Madame, allez, vous mettez la tête en arrière, vous regardez le plafond, vous ne bougez pas, c'est moi qui fais tout.
Un test toutes les 10 minutes, comme avec Alice, une jeune parisienne de passage à Poitiers.
Je suis là pour le travail et je rentre ce soir. Il me faut un passe pour le train.
Elle a déjà reçu sa première dose du vaccin.
Je ferai la deuxième le 16 là. Donc en attendant, il faut que je tourne avec des tests tous les 3 jours.
Vous bougez pas.
D'autres patients plus exigeants réclament des tests sur le champ.
Du genre, je veux tout de suite parce que je veux aller au restaurant. Ben oui, mais nous on peut pas. Enfin voilà, ils ont le droit de pas vouloir se faire vacciner. C'est leur choix personnel. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les exigences font qu'ils se retrouvent coincés et qu'on peut pas répondre à leurs attentes.
Jacques va tester 40 patients aujourd'hui, comme Alice, avec les fameux longs coton-tiges.
C'est horrible ça, je déteste ça. Rien que pour ça, il faut faire le vaccin.
Voilà.
Voilà, encore faut-il convaincre les anti-pass dans la rue tous les week-ends depuis un mois, sur les ondes aussi, avec cette radio pirate captée par un vacancier sur la route vers la Bretagne. En arrivant dans le département du Morbihan, il a fait part de sa surprise à nos confrères de France Bleu Armorique, Eric Bouvet.
Tout au bout de la bande FM, sur 107.9, son nom est on ne peut plus explicite.
On arrive en vacances, samedi, ambiance décontractée.
ma femme me dit, bah tiens, il y a sur le RDS une radio qui s'appelle Antipas. Du coup, on a écouté un bon moment, mais c'était quand même pas très agréable.
Oui, car les propos tenus étaient, selon Rémi, nauséabonds.
On est sous l'occupation, sous un régime totalitaire en France. Ceux qui se font vacciner sont faibles et participent à une sorte de transhumanisme. Et puis, j'en passe sur le vocabulaire qui fait référence à la Shoah.
Et Rémi, comme d'autres qui témoignent sur les réseaux sociaux, explique avoir capté cette radio samedi, dimanche et lundi, mais pas hier.
On a pu constater qu'on entendait toujours la même chose, avec des séquences très courtes de 2-3 minutes. Après, on passait sur une autre thématique et toujours en étant, bien sûr, soit complotiste, soit anti-pass sanitaire, en essayant de convaincre à chacun de ne pas se faire vacciner.
Il s'agissait de plusieurs voix qui faisaient référence à un collectif morbihanais dont le nom n'a pas été cité. L'antenne CSA que nous avons contactée à Rennes explique ne pas en avoir été informée, mais doit maintenant faire remonter l'information à Paris.
Ailleurs, sur le front de l'épidémie, le Mexique, en pleine troisième vague, enregistre un record de décès depuis avril, 786 morts hier. La vaccination des 18-29 ans vient de commencer.
France Inter, le journal de 13h. Anaïs Feuga.
Des soldats qui se rendent avec armes et bagages par centaines aux talibans à Kunduz. Une nouvelle capitale de province tombée ce matin. La situation en Afghanistan semble s'accélérer. Le président est arrivé à Mazar-i-Sharif, la grande ville du Nord, assiégée pour remobiliser les troupes. L'Afghanistan compte déjà plus de 5 millions de déplacés internes. 360 000 habitants ont fui à l'étranger cette année, craignant la prise de pouvoir des talibans. Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter pour Arte et France 24, et auteur du documentaire « Vivre en pays taliban » a pu les rencontrer. Lors des négociations à Doha entre le gouvernement afghan et les talibans, les extrémistes avaient dit qu'ils avaient évolué, en particulier sur la condition des femmes, ce qui ne semble finalement pas si évident.
Les informations qui filtrent depuis les vies strictes qu'ils ont pris récemment, elles sont pas bonnes de ce côté-là. On voit bien qu'ils demandent à nouveau aux femmes de rester chez elles, de porter la burqa, de sortir avec un mahram qui est un homme de leur famille, une sorte de chaperon qui vous suit partout. Nous, on a passé du temps pour ce documentaire chez eux. C'était une province qui est très proche de Kaboul, donc j'ai envie de dire c'était les plus évolués d'une certaine manière. C'était quand même extrêmement rigoriste, extrêmement conservateur. Mais à certains égards, il faut reconnaître que il y a des choses chez eux qui fonctionnent même mieux souvent qu'en territoire pris par le gouvernement et surtout la justice. En l'occurrence, nous on a assisté à une cour de justice où vous voyez bien qu'ils rendent la justice de façon rapide et puis il y a moins de petits chefs, il y a moins de corruption. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on a pu remarquer nous-mêmes.
Solène Chalvon-Fioriti, le départ des forces internationales sera achevé le 31 août. Je ne regrette pas ma décision de quitter l'Afghanistan, a dit cette nuit le président américain. Les États-Unis où Joe Biden, à la Maison-Blanche depuis 7 mois à peine, remporte une importante victoire politique. Le plus grand plan d'investissement depuis plus d'une décennie vient d'être adopté par le Sénat. 1200 milliards de dollars au total. Texte négocié pendant des semaines et qui a reçu, fait rare, le soutien indispensable d'une partie des Républicains. À New York, Loïc Loury.
Un projet historique destiné à transformer l'Amérique. Joe Biden n'a pas lésiné sur les superlatifs après le vote de son plan au Sénat par 69 voix contre 30, dont un tiers de républicains, 1200 milliards de dollars, dont 550 de nouvelles dépenses dans les routes, les ponts, l'internet à haut débit ou le remplacement des tuyaux en plomb. Et si le texte a perdu de sa substance lors des négociations, notamment dans ses volets environnementaux, ce vote bipartisan est une victoire en soi. Reste désormais à le faire adopter à la Chambre où ce sont cette fois les démocrates qui posent leurs exigences. En effet, ces derniers demandent au préalable au Sénat de voter cette semaine un projet de budget pour un autre plan social, celui-ci, de 3 500 milliards de dollars, des mesures inédites dans l'éducation, la santé ou la transition énergétique et dont l'architecte n'est autre que le socialiste Bernie Sanders, un montant colossal qui fait bondir les républicains déjà prêts pour une longue bataille. New York que Loïc Loury, France Inter.
En bref encore, le Soudan va remettre à la Cour pénale internationale l'ancien dirigeant Omar al-Béchir recherché pour crimes contre l'humanité au Darfour. Et puis le bilan s'alourdit en Algérie sur le front des incendies, au moins 65 morts dont 28 militaires. Les mots de condoléance du pape François ce matin à la communauté religieuse des Montfortins à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le père Olivier Maire est décédé de coups violents portés à la tête selon les résultats de l'autopsie. Ses obsèques auront lieu vendredi à la basilique de Saint-Laurent. Saint-Laurent-sur-Sèvre. La France repousse encore, mais officialise le contrôle technique obligatoire pour les deux roues, scooters de plus de 50 cm3, motos ou voitures sans permis. Ce sera obligatoire à compter du 1er janvier 2023. Le décret vient d'être publié au Journal officiel. La directive européenne qui l'exige date de 2014. La mesure a été maintes fois retardée en raison notamment de la forte opposition des motards. France Inter, il est 13h15. C'est un immense bonheur de rejoindre le PSG. Les premiers mots de Lionel Messi à la presse, mais comment pouvait-on en douter? Le joueur argentin a été officiellement présenté par le club en milieu de matinée avec sourire, loin des larmes de Barcelone. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour.
On peut dire que vous avez assisté, n'ayons pas peur des mots, à la conférence de presse la plus attendue sans doute de l'année.
Oui, dans une salle de presse pleine à craquer, mitraillée par les photographes, la nouvelle star du Paris Saint-Germain a semblé détendue malgré la folle semaine qu'il vient de traverser avec sa famille.
J'espère que tous ensemble on pourra réussir. Je veux remercier les Parisiens car mon arrivée a vraiment été une folie. Il ne me manque rien pour être heureux. Grâce à cet accueil et à ce contrat.
Lionel Messi a soulevé 4 fois la coupe aux grandes oreilles avec le Barça, la Ligue des Champions, celle que rêve de ramener enfin à Paris le président du PSG, Nasser El Khelaifi.
Je suis très fier de vous présenter Lionel Messi comme joueur du Paris Saint-Germain. Tout le monde le connaît, il incarne la magie du football. Il y a 10 ans, les gens se demandaient ce qu'on allait faire au PSG. Eh bien voilà, vous avez la réponse. On va gagner plein de trophées ensemble.
Le Paris Saint-Germain a réussi son coup et les nombreux journalistes espagnols venus exprès pour cette présentation sont toujours aussi fans du joueur qu'ils portent le maillot blaugrana ou celui du PSG.
Merci Guillaume Batin avec Alexandra Bergel depuis le Parc des Princes où les supporters ont pu suivre en effet la conférence sur les écrans géants devant le parc. Messi en numéro 30 avec le maillot bleu et rouge du Paris Saint-Germain. Les machines à floquer ont tourné toute la nuit pour permettre aux vendeurs de maillots officiels de les proposer à la vente dès l'ouverture ce matin. Et depuis, file d'attente le long des Champs-Élysées. Les premiers sont arrivés très tôt. Damien, un supporter parisien, a passé la nuit devant la boutique juste pour avoir son maillot. Il confie à Cédric Hermel qu'il n'a pas dormi une minute.
Alors c'est simple, je suis arrivé à 1h35, j'étais pas le premier. Il y avait deux frères avant moi. Malheureusement, Manu, moi j'aurais aimé qu'elle se passe autrement, parce que j'aurais aimé dormir un petit peu, mais quand je me suis assis, je me suis limite allongé. Les hommes qui ont changé la devanture pour la mettre à l'effigie de Messi sont arrivés, ont monté les échafaudages, m'ont demandé de me décaler, évidemment, c'est ce que j'ai fait avec grand plaisir et bonheur. Malheureusement, après ça, je rentre pas chez moi, je vais directement au travail, je reprends. Messi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé et que j'ai détesté à des moments. Maintenant, le voir parmi nous, un joueur avec ce palmarès, un joueur avec ce niveau. C'est évident que ça n'arrive pas tous les jours, un joueur avec 6 ballons d'or.
Et sur la boutique en ligne, sachez que les modèles hommes étaient déjà en rupture de stock en milieu de matinée. C'est ça aussi le business. Avant les prévisions complètes de Météo France, dans un instant, on ne boude pas notre plaisir de savourer le retour d'un temps estival sur une bonne partie du pays. Après les torrents de pluie, les gouttes froides et les orages, au bord du lac du Bourget, les loueurs de bateaux soufflent. Valentine Lethès, France Bleu Chambéry.
Sur son paddle, sur le lac du Bourget, si Sophie tremble un peu...
On n'en a jamais fait. On verra quand on sera sur l'eau.
Le soleil, lui, parade.
Impeccable, les températures sont nickel. Puis ça fait du bien, ça remonte le moral.
Chez le loueur de bateau, sur le petit port, Lucille, en visite chez ses parents, prend même sa revanche sur la météo.
Je suis revenue il y a 3 semaines ici, il a plu, donc forcément on n'a pas fait de bateau. Voilà. Avec les grands-parents, les cousins, donc toute génération confondue, ça va être cool.
Des clients heureux pour le plus grand bonheur d'Olivia, l'une des gérantes.
Depuis 2-3 jours, c'est vraiment intense. Les bateaux sans permis partent plusieurs fois dans la journée, et d'ailleurs les bateaux avec permis aussi. Hein. Mais jusqu'à maintenant, c'était pas le cas, puisque c'est vrai qu'il faisait pas beau, donc ça donne pas trop le moral. Les gens n'étaient pas là. Le grand port, le petit port, l'esplanade, c'était désert. Hein. Voilà, puis il faisait pas très chaud. Hein. Cette année, c'est moins de la moitié de ce qu'on devrait faire.
Et la reprise n'est pas non plus spectaculaire chez Thomas, le loueur de paddle.
Comparé à la saison dernière où juste après le confinement, il y avait plein de gens, là c'est vrai que c'est tranquille. Hein. Pour l'instant, on a à peine fait la recette de l'année dernière en fait. Donc c'est compliqué.
Autant dire que ces rayons de soleil très attendus sont priés de rester jusqu'à la fin de l'été.
Eh bien, on va voir ça tout de suite, au moins pour aujourd'hui.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et avec vous, Jean-Michel Golinski, il fait beau partout.
C'est vrai, un ciel aux couleurs bleu soleil aujourd'hui en toute région, avec tout de même pour le nord de la Loire une ambiance un peu plus variable que dans la moitié sud. À noter un risque d'ondées éparses en montagne en fin d'après-midi, surtout vers les Pyrénées, le Jura et les Savoies. Le tout dans des températures pratiquement partout en progression par rapport à hier, avec 20 à 24 prévus cet après-midi près de la Manche, 27 en moyenne du Val-de-Loire au bassin parisien et sur l'Alsace, 30 à 32 sur les régions centrales, par exemple du côté des Charentes, du Limousin et du Lyonnais, jusqu'à 36 degrés sur les villes les plus méridionales, voire 38 ou 40 dans les terres du Languedoc-Roussillon, en moyenne vallée du Rhône et sur la Provence. Demain, la chaleur va encore s'accentuer dans la partie sud, jusqu'à 40 degrés, surtout près du Rhône et puis sur la Provence. Le soleil va bien résister dans la partie nord et dans le secteur sud-est, mais un voile nuageux qui porteur d'orage va s'installer entre les Pyrénées et le Jura en cours de journée. Et puis en soirée de demain, les orages risquent d'être violents, notamment dans le Val-de-Saône.